Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Oui, les choses ont changé. Les choses ont changé dans le milieu du vin. Ça a changé aussi dans la société en général. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment totalement séparer le milieu viticole de la société en général.
Je ne pense pas non plus, effectivement.
Donc, la place de la femme, elle s'est affirmée dans le milieu du vin parce qu'il y a aussi des avancées dans d'autres milieux et vice-versa. Et il y a eu des fortes personnalités, des femmes qui ont pris des postes à responsabilité dans plein de domaines, qui ont permis, petit à petit, que les choses changent.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer cette série, nous avons vu les choses en grand. Avec ce dernier entretien, Pascaline Le Pelletier a accepté de se livrer sur des sujets aussi cruciaux que personnels. La place des femmes dans la restauration et le monde du vin, les effets de l'alcool et le rapport qu'elle entretient avec cette substance, et surtout, quels sont les vins qui la font vibrer. Un entretien teinté d'engagement, en forme de déclaration d'amour. Régalez-vous.
Bonjour Pascaline.
Bonjour.
Merci beaucoup de te prêter une nouvelle fois, et probablement la dernière, à notre jeu de questions-réponses.
Avec plaisir.
On va aborder plusieurs sujets ce soir. Dans nos précédents entretiens, on a beaucoup parlé de toi et on va évidemment continuer aujourd'hui. On a également beaucoup parlé du monde du vin dans son ensemble, dans son organisation. J'aimerais qu'on parle vraiment de vin pour commencer aujourd'hui. Quels sont les vins qui te font vibrer?
c'est une belle question. Quels sont les vins qui me font vibrer? Ce sont des vins qui sont faits. Ce sont des vins que j'appelle vivants. Alors, je me suis fait taper plein de fois sur les doigts récemment pour utiliser un mot comme ça. Mais ça reste vrai, c'est des vins vivants et transparents, en fait. C'est des vins qui résonnent en moi, que je ne comprends ou je ne comprends pas forcément. C'est des vins du monde entier. C'est des vins de néo-vignerons ou de vignerons ou vigneronnes qui ont peut-être 40 millésimes dans les mains. Ce sont des vins de tous les cépages possibles et inimaginables, de techniques diverses et variées. Mais ce sont des vins qui, immédiatement, en fait, me font ressentir à la fois des émotions et qui font venir à mon esprit des images et des idées et des pensées. Voilà, ce sont des vins qui peuvent être très simples et des vins qui peuvent être très complexes. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des réponses, mais, euh, C'est une très large gamme de vins qui me font sentir vivre, voilà, en un mot.
C'est ça que tu mets derrière le caractère vivant ? Vivant, c'est avant d'être les vins, c'est ce que ça te, la sensation que ça te procure ?
Alors, je pense que ça peut pas me procurer... Oui et non. Je pense que les vins qui me font me sentir vivre, totalement, où sont combinés le rationnel, l'émotionnel, le plaisir, la retenue, tout ça, ce sont des vins qui ont réussi ou qui ont en eux encore quelque chose qui peut-être est aussi l'évolution d'une reste de leur vie à eux et qui ont encore généralement qui ne vont pas être des vins d'instant T, ce sont des produits qui vont évoluer au fil du temps et qui ont la capacité, alors plus ou moins longue évidemment, alors soit ils vont évoluer immédiatement dans mon verre et au bout d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, il y aura des choses encore à découvrir qui vont évoluer généralement sur le fil de la semaine, parce que c'est assez rare, à moins que je sois au restaurant avec des amis, mais quand je suis chez moi ou quand je suis au restaurant au travail, je goûte les vins quand même sur le temps assez long, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, six mois. J'ai plein de vins ouverts tout le temps que je goûte et que je regoute et j'y reviens. Il y a toujours quelque chose à dire. Donc des vins qui ont leur vie aussi et qui, je pense, ne peuvent l'avoir que parce qu'avant, il y a eu une préservation du vivant le plus longtemps possible, que ce soit... au niveau de la plante, de la baie, du microbiote et tout ça. Donc c'est lié.
Est-ce que ces vins, ils ont quelque chose en commun dans la manière dont ils sont faits ou quand on regarde les personnes qui les ont produits ou qui les ont mis sur le marché ?
Oui, évidemment, ils ont un point commun. Ils ont un point commun. Alors, les personnes qui les ont produites ou mises sur le marché peuvent avoir des personnalités vastes et diverses et variées, des cultures très différentes. Mais généralement, ce sont quand même des personnes qui ont un respect de l'environnement dans lequel ils vivent, que ce soit l'environnement végétal et de la plante, de la vigne, mais beaucoup plus largement. Ce sont quand même très généralement, si ce n'est pas dans la quasi-totalité des cas, des personnes sensibles à l'autre et à l'univers qui les entoure, humainement, esthétiquement, après philosophiquement, ce qui veut dire que c'est pas forcément des vins sans intervention. Je goûte beaucoup de vins où voilà, il y a sont des vins qui entre guillemets il y a pas d'intervention plus que ça. Tout le monde a un petit peu des vins sans intrants, des vins naturels et tout ça. C'est pas parce qu'on fait un vin sans rien qu'on a cette sensibilité au monde. Et souvent ces vins-là, il y en a beaucoup qui me parlent pas parce que c'est autre chose qui est en place. Et c'est souvent de l'ego. Et plus ça va en fait, plus je suis sur des vins de personnalité. Mais pas forcément des vins d'ego, si ça peut faire sens. C'est cela qui me parle beaucoup.
Je pense que ça fait sens, oui. Quand même, il y a une démarche politique derrière tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important de défendre ces vins-là ? Pourquoi est-ce que tu y tiens tant ?
Je pense que c'est important plus que jamais aujourd'hui parce qu'on est à un moment un peu... Bon, on a sans doute été à des moments critiques dans l'histoire de l'humanité, mais je crois que plus que jamais, on est dans des moments critiques de l'histoire de l'humanité où notre place à nous, en tant qu'êtres vivants qui jouissons quand même pour une majorité d'entre nous, en tout cas dans certains pays du monde, hein, je parle de ma petite place très privilégiée de blanche occidentale... qui a quand même beaucoup de chance d'avoir ce qu'elle a, de faire le métier qu'elle veut. Mais il est plus que jamais temps de se rendre compte de la place réelle qui est la nôtre et que sans beaucoup de choses que nous nions, que nous détruisons, que nous utilisons ad nauseam, on n'est rien. Et donc ces vins-là, indirectement, alors c'est un stretch très... C'est vraiment... Pardon, je fais beaucoup encore de franglicisme ou d'anglicisme franco. Mais je pense que ces vins nous permettent, ou permettent à une minorité qui a la chance de pouvoir les boire, de le comprendre de nouveau, de le ressentir. Et ce sont des vins très très importants pour ça. Ce sont des vins où on se rend compte que... tout est imbriqué. Le vivant est imbriqué, on est imbriqué. Il y a pas, c'est un flux. Il y a pas nous d'un côté et la vigne de l'autre qu'on va tailler, qu'on va maîtriser, qu'on va gérer, des fermentations qu'on va maîtriser, qu'on va gérer. Cette histoire de gestion, de maîtrise du monde, hein, qui était déjà condamnée depuis des millénaires par certains philosophes, penseurs, politiciens, tout ce que vous voulez, philosophie. Aujourd'hui, elle est plus que problématique. Et on le voit, on le sait, mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que par le plaisir de ce vin, de ce type de vin, qu'on peut après étendre à la gastronomie, à l'alimentaire en général, qui est quand même un des besoins fondamentaux humains. Il faut qu'on mange et boire. Je pense qu'il faut peut-être qu'on boive très très modérément, mais je pense que c'est partie de la civilisation humaine. Eh bien, ça nous permet de se rendre compte qu'en fait, il y a des futurs possibles, il y a des nouvelles relations possibles avec nos environnements, et qu'elles n'empêchent pas le plaisir, qu'elles n'empêchent pas la joie simple, qu'elles n'empêchent pas la satisfaction des besoins immédiats et des besoins fondamentaux et des désirs qui sont les nôtres, qui sont des désirs complexes, et que c'est possible. Et c'est pour ça que c'est si important que ça. Et on peut le faire de manière non moralisatrice non plus, ce qui est aussi très important. On peut proposer un futur joyeux avec, pour moi, ce type de vin qui incarne un type d'agriculture, qui incarne un type de nouvelle communauté, qui incarne un type de nouvelle consommation qu'on a peut-être oublié. Et c'est pour ça que c'est si important et que c'est politique au sens large du terme, parce que c'est une proposition de vivre commun entre humains, mais aussi entre tout l'environnement dans lequel l'humain évolue. Et donc c'est en ce sens-là que c'est le polytaille, la cité au sens large. C'est une nouvelle façon d'envisager la relation à l'autre. Alors, évidemment, beaucoup de gens me disent que ça va beaucoup trop loin, mais en fait, je ne pense pas que ça aille trop loin du tout. Hein. C'est le grand écart, en fait, n'est pas si loin que ça. Et une fois qu'on a commencé à boire et à apprécier ce type de vin, d'abord, hein, je pense vraiment qu'on peut ressentir une vraie joie. Je pense qu'il y a une vraie satisfaction du corps et de l'esprit qui est assez rare aujourd'hui. On a énormément de plaisir satisfait immédiatement et on est par ces pics d'adrénaline, de pseudo-satisfaction immédiate. C'est comme le sucre, quoi. On a cette satisfaction immédiate, mais après on est dans une espèce de dépression.
La fameuse dopamine dont on a entendu parler, voilà. Notamment avec les réseaux sociaux et ce genre de choses.
Bah,
quoi.
C'est ça, et après il en faut toujours plus intense, toujours plus ça. Et on oublie qu'il y a une espèce de joie sereine qui est aussi possible et qui est bien plus satisfaisante, en fait. Et je pense que ce type de vin, alors je le dis parce que c'est le champ dans lequel moi je me suis retrouvée et qui résonne en moi, mais je pense que ce type de vin m'a apporté et m'apporte de plus en plus un apaisement, une joie, une sérénité, un rapport au temps qui est différent, un rapport à la satisfaction qui est différente, sans priver d'un plaisir, d'une intensité ou d'autre chose. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, pour qu'il y ait demain, il faut qu'on arrête beaucoup de choses. Donc voilà, c'est cette joie sereine qui est incroyablement satisfaisante, et je l'ai avec ce type de vin. Alors, ça reste rare encore, mais ils sont là.
Tu as parlé d'une chose qui me semble importante. Tu as dit, on peut faire ça, on peut mettre en avant ces vins sans le côté moralisateur. Pourtant, on a parfois l'impression que les militants de ces vins-là, c'est des vins qui sont défendus, qui ont fait beaucoup de bruit, qui sont, enfin, je veux dire, de bruit médiatique, enfin, qu'on voit beaucoup dans les médias, qui sont un peu plébiscités par les critiques. On a parfois l'impression qu'il y a des gens, justement, qui disent bah, c'est ça le futur du vin, il faut que ce soit ça, et qui donnent un petit peu des leçons aux autres. Comment est-ce qu'on fait pour défendre ces vins-là, justement, sans le côté moralisateur ?
Alors je pense, alors une fois encore, je me permets de parler d'un point de vue un peu externe. Enfin, je suis un petit peu ce qui se passe en France, j'essaie autant que possible, mais je suis quand même basée aux États-Unis, donc je vois les choses avec parfois une certaine distance où je suis pas au courant de tout. Mais je crois souvent que le côté moralisateur, il vient pas forcément des vins qui font les vins eux-mêmes.
Des gens qui font les vins eux-mêmes. Ouais.
Non, enfin j'ai l'impression que les exemples les plus forts que j'ai en tête. De personnes qui, pour moi, incarnent ce type de production ne sont pas forcément les gens qui vont donner les leçons de morale. C'est souvent des gens comme moi, des sommeliers,
des critiques de vin ou des personnes du vin qui sont pas forcément ceux qui font le vin non plus, qui sont dans cette... Et ça a été, c'est honnêtement un sujet qui est assez facilement tournable en affrontement manichéen. On aime bien ça, on aime bien simplifier les choses pour ça. Donc effectivement, comment est-ce qu'on n'est pas moralisateur ? C'est tout simple, c'est parce que je pense sincèrement que si on veut vraiment faire plaisir aux gens, écouter, moi je le vois juste au restaurant, hein, il n'y a pas de meilleur, meilleur juge de paix qu'un moment de plaisir, la personne qui va goûter. Voilà, je crois sincèrement que on est des homo sapiens, mais on est des animaux sapiens, et que lorsque on a en bouche quelque chose qui va vous faire vibrer, qui est bon, qui est complexe, qui satisfait les sens, qui satisfait l'intellect, mais qui satisfait le corps, ça vaut tous les discours du monde. Ça vaut tous les... Cette expérience-là, elle est incroyable, elle est forte, elle est hyper stimulante, elle est profonde, c'est très fort. Alors le vin le permet, mais plein d'autres choses le permettent. Le vin le permet peut-être de manière un peu décuplée, tout simplement par la composition du vin, ou par les moments dans lesquels on va boire un vin, où on est peut-être psychologiquement plus prêt à accepter ce genre de moment. Mais une fois qu'on a ça, mais ça devient addictif. C'est un vrai plaisir. Et ça, c'est la meilleure des leçons, parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, alors moi, je peux juste en témoigner de ma place de sommelière dans des restaurants, avec des clients maintenant, pour certains que je connais depuis 14-15 ans, depuis que je suis à New York. Ils ont commencé, ils se sont pas arrêtés. Et c'est devenu cette recherche de ce moment de bonheur. Enfin, on se sent bien, le corps se sent bien, ça fait plaisir, c'est bon. Et c'est devenu, c'est quelque chose que l'on recherche. Une fois qu'on est passé là-dedans, on se dit, mais comment, pourquoi j'ai bien aimé ça, ça vient d'où? Tiens, on va commencer à goûter, on va goûter autre chose. Et après, on s'embraye. Moi, je le vois aussi, mes parents, hein, ils mangeaient pas, ils buvaient pas comme ça. Voilà, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus tout le temps. C'est souvent des produits quand même très stabilisés, des produits industriels, beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, j'en parlais encore à ma mère l'autre jour, elle me dit, mais je ne peux pas revenir en arrière. Et j'ai pas envie. Ils vont acheter un petit peu différemment maintenant. Ils regardent, font attention aux provenances, les producteurs. J'ai pas eu besoin de faire une leçon de morale. Donc je crois que c'est comme ça qu'on peut le faire. Et c'est en éduquant au plaisir du goût et après en voyant les gens qui sont derrière. Je crois qu'aujourd'hui, on a un des problèmes, c'est que il n'y a pas forcément la conscience du temps qu'il faut parfois pour faire les choses. On a tellement tout de suite. C'est tellement on nous donne dans une cuillère d'argent ou sur un téléphone portable la possibilité de tout avoir immédiatement. Et donc, ça n'encourage pas à voir ce qu'il y a derrière, ou à aller encourager à voir la personne qui a derrière, le temps passé. Et ce type de vin aussi reconnecte avec une certaine idée de la relation humaine et du temps qu'il faut, et de la patience qu'il faut avoir. Au départ, ça peut être frustrant.
Pourquoi ?
Parce qu'on est dans une société qui nous donne tout de suite. Voilà, si là, moi, j'ai envie d'acheter, je sais pas, une bouteille un peu rarissime, j'ai un peu d'argent, je regarde sur mon téléphone, en 15 secondes, je la localise, en 2 minutes, je l'achète, et peut-être qu'en 2 jours, même demain matin, elle peut être sur le pas de ma porte.
C'est facile, oui. Donc relativement facile.
On est dans une société qui nous incite à consommer de manière absolument stupide, et consomme non seulement stupide, mais addictive de manière problématique. Et toute l'incarnation de ce qu'il y a derrière pour vraiment faire et créer quelque chose disparaît. On ne sait pas. C'est tellement facile d'avoir un. Et dans les vins, ce type de vin-là, pour moi, ça m'a aussi permis de réapprendre à patienter et à comprendre le travail qu'il y a derrière. Ça me touche encore plus, évidemment, c'est l'introduction dans laquelle je travaille. Mais c'est un. Le monde du vin a toujours été, je pense, elle est toujours, c'est une loupe sur une société. Je crois vraiment que c'est un prisme qui permet de manière très intéressante, de comprendre comment une société s'organise par rapport à, de manière interne, de manière légale, de manière économique et tout ça, mais aussi de manière à sa relation à l'agricole et au monde entourant. Donc voilà, c'est pour ça que ces vins sont fascinants. Et une fois qu'on rencontre, qu'il y a la poignée de main, qu'on voit la personne, enfin, c'est un truc tellement fort aussi, ça. Donc c'est pas moralisateur. Il y a plein de façons, je pense.
Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière rencontre avec un vin comme ça qui t'a ému?
Alors, ma dernière rencontre avec un vin qui m'a ému.
Ou d'une rencontre récente, quelque chose qui t'a ému?
J'étais beaucoup bloquée à New York. J'ai pas fait, malheureusement, enfin oui, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et au restaurant ces derniers mois, ces dernières années même. Et j'ai la chance d'avoir des vignerons qui viennent régulièrement. Et j'ai vraiment pu, il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment pu parler avec un vigneron chilien qui s'appelle Roberto Henriquez. Je pense que les vins sont distribués en France, j'en suis quasiment sûre. Et Roberto... quelqu'un qui aujourd'hui fait beaucoup pour la réhabilitation de tous les vignobles du sud du Chili, dans les vallées notamment d'Itata, où il y a un patrimoine exceptionnel de très vieilles vignes, préphylloxériques, centenaires, très isolées de tout, et qui aussi, aujourd'hui, grâce au vin, permet d'avoir un futur pour les familles locales et les populations locales qui n'ont pas. Il n'y a pas forcément d'autres moyens financiers de pouvoir rester. Donc il y a... Et bon, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu. Les vins, j'ai bien aimé les vins. Ça faisait 4 ans que je ne les avais pas vraiment goûtés. Et là, j'ai revu Roberto. On a regoûté tous ces vins, des sémillons, des très vieilles vignes de sémillons magnifiques, des vignes de Païs. Et les vins étaient fantastiques. Les vins étaient, ça fait partie des très grands vins du continent américain, des vins que j'encourage n'importe quel sommelier intéressé, amateur de vin, à goûter dans sa vie. Unique. Et oui, et Roberto c'est quelqu'un d'incroyablement lumineux, d'une gentillesse exceptionnelle, et qui a un projet de vie qui va bien au-delà de ses vins à lui, même dans la structure dans laquelle il est, la façon dont il enseigne aux différents propriétaires de ces petites vignes à préserver leurs vignobles, à leur donner suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre de la production du vin, les vins qu'il fait, qui sont plus ou moins en coopérative. C'est un modèle exceptionnel. Ce sont des vins qui m'ont touché. Voilà, ils sont à la carte. Là, on les a ouverts. C'est des vins comme ça que j'ai envie d'avoir au restaurant. Les gens les goûtent, ils me disent, mais c'est quoi ça? Alors après, j'ai pas encore été là-bas. Je peux juste me faire le porte-parole de ce que fait Roberto. Mais magique. Et ça m'a vraiment fait... ça m'a vraiment fait du bien de le voir et de passer... On a peut-être passé une bonne heure et demie ensemble. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'était fort.
Dans le verre, qu'est-ce qui fait leur singularité à ces vins? Pourquoi tu dis que c'est des vins uniques?
Parce que c'est des dynamiques de bouche que j'ai jamais eues. Moi, j'aime beaucoup penser le vin, alors de moins en moins en termes d'éléments en soi, alors que ce soit des vins à beaucoup d'acidité, pas beaucoup d'acidité, des alcools, des tanins, ça m'intéresse de moins en moins de parler d'un vin comme ça, ou aussi des arômes de pêche, de pamplemousse et tout ça, ça m'intéresse de moins en moins. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les dynamiques entre tous les éléments. C'est moins l'élément lui-même que la dynamique de l'élément. Et que ça se réponde. Et qu'on prend une gorgée, on est dans un certain monde, il y a une certaine réaction de la bouche, très salivante. Je pense de plus en plus à la salivation comme un affect fort sur mon amour du vin. Et il y a des champs aromatiques qui se répondent que j'ai jamais pensé pouvoir se répondre. Je ne les ai jamais associés. Et subitement, il y a un champ qui me rappelle une certaine épice, puis ça va dans un autre monde... un floral, les deux se répondent, ça fait une saveur que j'ai jamais, un arôme que j'ai jamais goûté, puis une saveur que j'ai jamais goûtée parce qu'il y a un travail un peu de, une longueur, il y a un umami qui arrive, il y a une acidité qui vient se rehausser, c'est des sensations de bouche que j'ai jamais ressenties, donc c'est unique, et ça c'est magique, subitement, mais j'ai jamais ressenti ça, Ça va à l'opposé des vins standardisés qui doivent goûter toujours la même chose. Et il faut absolument que ce soit ça, puis ça, puis ça. Et cet arôme-là, cet arôme-là, cet arôme-là, et on n'en parle plus.
Il y a une typicité, il faut respecter la typicité, et ainsi de suite. Quoi, c'est
alors,
ça
typicité, je pense plutôt standardisation. Ouais. C'est plutôt des standards de production qu'une typicité. Mais oui, on est dans cet esprit-là. Alors que là, on est ouvert à une réaction de son corps et de son goût qu'on n'a jamais eu. Donc c'est pour ça qu'ils sont uniques. Et je trouve ça fantastique. Et en plus, on a la chance de le goûter finalement sur un certain temps. Comme je te le dis, c'est des vins que je trouve vraiment très... je trouve fascinant. On les goûte sortis de la bouteille, on les goûte en fin de service, on les goûte le lendemain, en fin de semaine, c'est toujours là. Alors pour moi, c'est un très bon... Voilà, le truc, c'est goûter un vin, essayer de voir si le vin tient 24 heures. S'il ne tient même pas 24 heures, il y a un petit problème avec le vin. Mais Sylvain, normalement, un vin, ça tient sur une semaine sans problème. Ça peut s'affaiblir un petit peu sur des notes aromatiques, autrement ça tient. Et là, et en dessous les accords mes vins, j'ai envie de mettre plein de choses. Ça m'ouvre des nouvelles portes. Je me dis, tiens, mais j'aurais jamais pensé mettre une vieille vigne de Sémillon sur ce plein-là. Et ça marche. Et voilà, et subitement, on a un nouveau plaisir. Mais c'est infini. Alors, il faut accepter que ce soit infini. Mais je m'en réjouis. Je m'en réjouis tellement.
Est-ce que tu arrives à bien transmettre ça à tes clients au restaurant ? Est-ce que tu vois des gens qui sont touchés autant que tu l'es par les vins que tu leur sers ?
Oui, je pense, oui. Oui. Oui, absolument. Alors, plus ou moins en fonction de... En fait, quand on est au restaurant, que ce soit moi ou avec Alice, qui est mon chef sommelier, on est... Une fois encore, on est avant tout là pour que la personne passe un bon moment. Le gros du boulot pour nous, c'est de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel les personnes sont à la table. C'est ça l'essentiel, c'est ça le gros du travail. Et de savoir si... Dans quel état de découverte, d'accueil ils peuvent être. Alors, des fois, ils pas du tout intéressés, ils aiment bien le vin, mais ils n'ont pas du tout envie d'avoir ça, ils veulent juste quelque chose. Toutefois, ils sont là, ils sont prêts pour cette expérience-là. Et après, c'est vraiment d'essayer de... Alors, c'est très difficile, parce que généralement, ça passe par très peu de mots, parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas le contexte social qui fait que les gens n'ont souvent pas forcément les mots pour exprimer aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais c'est ça, et notre travail, c'est d'essayer de comprendre en peu de mots... où est la sensibilité de la personne à ce moment-là, et des personnes avec eux. Et tout notre travail, c'est vraiment de marier... En fait, je crois vraiment que mon boulot, c'est moins de marier un vin avec un plat que de marier un vin avec une personne. Ça, c'est mon travail. J'ai compris ça récemment, que c'était vraiment mon boulot. Après, évidemment, il y aura un accord, désaccord, mes vins. Mais la toute première chose que je dois faire, c'est vraiment marier un vin avec la façon dont cette personne est à ce moment-là.
T'aimerais pouvoir passer plus de temps avec chaque client au restaurant ? On sent, t'en as parlé là, de la rapidité ou la fugacité de la relation. J'ai l'impression de sentir comme un petit regret.
Alors le regret est souvent que sur la première bouteille ou quand on ne connaît pas la personne. Parce qu'après, en fait, généralement, ce qui se passe... c'est qu'en fait, on passe vraiment beaucoup de temps à table. Une fois que si c'est des personnes qu'on connaît pas et c'est la première bouteille et on est en début de service, et malgré tout, on a les contraintes du restaurant, donc voilà, il faut que ça aille relativement. On n'a pas deux heures, quoi. C'est toujours ce moment-là, ces premières cinq minutes quand on est en début. Il faut vraiment courir, il faut vraiment aller vite. Par contre, ce qui se passe quand même très généralement, je veux dire, dans la quasi-totalité des cas, si c'est la bonne bouteille pour la bonne personne, le temps, il est après. Et là, on passe beaucoup de temps avec la personne après. Donc, je dois bien dire que je suis vraiment gâtée. L'organisation de mon restaurant me permet de passer du temps. C'est toujours cette frustration sur les toutes premières secondes de service. Et quand c'est des gens qu'on connaît, ça va. C'est beaucoup plus facile parce qu'en trois mots, ils sont assez... Voilà, on sait un peu où on va aller. Et là... Mais c'est... Alors non, pas trop de frustration, sauf celle-là. Ouais. Quand j'ai cinq tables, il faut que ça aille vite. Et on essaye de ne pas se planter. Et là, c'est le travail le plus dur.
Est-ce que en tant que sommelière active, je veux dire, tu travailles régulièrement dans ton restaurant, tu l'as dit, tu ne choisis que des vins qui te font vibrer à la carte, ou est-ce que parfois tu dois faire des concessions parce que ton entreprise en a besoin, parce que tu sais que ça va satisfaire certains clients?
Alors, je suis quasiment bientôt dans la situation privilégiée de n'avoir à la carte que des vins qui me font vibrer. Très, très éclectique dans la sélection, hein, avec des vins canoniques, classiques, mais qui me font vibrer, et des vins beaucoup plus expérimentaux et qui me font vibrer. J'ai encore quelques vins à la carte hérités, mais qui sont aussi de très, très belles factures que j'ai aimées à un moment donné et qui aujourd'hui, pour moi, n'ont plus cette ou au moins. Mais honnêtement, on est sur peut-être 1% de la carte. Donc non, je suis dans une situation où je pourrais... Et oui, bah alors ça, c'est aussi une décision de carrière. J'ai choisi ma carrière, les établissements dans lesquels j'ai travaillé, parce que justement, j'avais pas cette... je voulais pas être dans cette situation-là. Je voulais pas. Et donc, ça m'a sans doute... ça ne m'a pas privé, parce qu'en fait, j'ai jamais vu ça comme un problème. Hein, où j'ai toujours eu la chance de pouvoir assumer mes choix et aller là où je voulais. Mais c'est vrai que on me demande régulièrement pourquoi je ne suis pas à la tête. Je suis pas dans un restaurant, je sais pas, beaucoup plus 3 étoiles, ou des gros groupes ou des choses comme ça. Et c'est la liberté. Je voulais pouvoir... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je pense que c'est tout à fait possible, mais les opportunités professionnelles qui m'ont été présentées à chaque fois, notamment, incluaient une sélection qui m'aurait fait travailler avec des produits que je n'avais pas envie de promouvoir ou que je n'avais pas envie de défendre. Voilà, donc je n'ai pas fait. Et ce n'est pas grave, je suis très contente dans mon petit restaurant à New York.
Juste un détail là, mais les vins dont tu parles, là, le petit 1% que tu n'as plus envie de promouvoir, on va dire.
Moins envie. Hein.
Ouais, moins envie, ouais.
Moins envie.
Moins envie, on va dire. C'est parce que ces vins, ils ont évolué d'une manière qui ne te plaît pas ou qui te plaît moins. Ou est-ce que c'est toi qui as changé? Est-ce que c'est ton goût qui a changé? Il est différent ou tu as une exigence différente?
Alors dans ces cas-là, c'est pas moi qui les avais achetés. Donc aussi, à l'époque, je pense que j'étais encore capable de comprendre leur intérêt. Voilà, et je pense qu'effectivement, en fait, c'est mon goût, c'est moi qui ai changé. J'ai changé et j'ai aussi vu un petit peu l'évolution de certaines bouteilles, qui m'a confortée dans une certaine idée de là où je voulais aller. Et voilà, là, c'est surtout pour ça. Et après, parce que je pense que j'ai découvert d'autres vins, qu'on a une carte limitée, j'ai la chance aussi d'être à une époque où l'ouverture sur le monde des dégustateurs est plus grande que jamais. Je pense qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué, c'était quasi impossible de faire certains types de cartes de vin. Il y avait, de toute façon, l'accès à la production était compliqué et la clientèle aussi n'était pas prête. Et aujourd'hui, comme on a quand même un nombre limité de références à la carte, voilà, il y a des référents qui sont sans doute importants, qui moi pour moi ne correspondent plus forcément à des identités fortes que je vois ou qui l'incarnent pas, et j'ai d'autres vins qui aujourd'hui me parlent beaucoup plus.
Pourquoi c'était plus difficile il y a quelques années? Quand tu as commencé, par exemple, de faire ce genre de carte des vins?
Bien, parce que c'est ce qu'on vient... Enfin, pour moi, on vient de dire, il y avait plusieurs choses. Il y avait à la fois une production qui était encore limitée, qui n'était pas forcément facile non plus à acheter. Donc, il y a eu des régions viticoles qui ont quand même fait des grosses révolutions, il y a beaucoup de remises en question ou de découvertes de ces régions-là. Sur les 20-30 dernières années, je crois que c'est assez incroyable. Une émancipation progressive de style de vin aussi, qui était jugé par un certain type de critique ou un certain type d'acheteur qui n'allait que dans une seule direction. Donc la diversité n'est pas forcément encouragée. Donc la production a beaucoup évolué. Le système d'achat a beaucoup évolué. Il y a 14 ans, il n'y avait pas le nombre de distributeurs de vins que j'ai à New York, par exemple. Donc logistiquement, ce n'était pas forcément facile d'avoir les vins. On les avait en toute petite quantité ou il n'y en avait pas. Hein. Et après, notre clientèle a énormément évolué. Et cela, je pense que c'est vraiment évidemment les 10 dernières années, 2012, 2013, 2014, aux US, ça a vraiment été pour moi vraiment le basculement. Hein. Et ça s'est accéléré avec la Covid énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la clientèle d'amateurs est beaucoup plus curieuse et ouverte qu'il y a 20 ans. 20 ans, un grand vin, ça devait être de cette région viticole. Enfin, je vais prendre l'exemple des grands blancs secs, hein, mais un grand blanc sec, c'était un grand Bourgogne, c'était parfois un grand Alsace, c'était éventuellement, si on les connaissait, les grands blancs secs allemands, mais bon, c'était très marginaux. Éventuellement, l'Autriche, on a fait un peu le tour, quelques Italiens, et après des grands Américains, des Chardonnays américains. Et là, maintenant, grand blanc sec, les gens vous parlent de la vallée du Rhône, vous parlent de la Loire, vous parlent de grand blanc d'Espagne. Il y a plus un grand blanc sec n'est plus qu'un ou deux référents. Il y a aujourd'hui une palette et les gens l'apprécient, le savent, le connaissent et le demandent. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans.
Tes clients, ils sont mieux éduqués aussi qu'il y a quelques années ?
Bien sûr, ils sont mieux éduqués, ils sont passionnés, les réseaux sociaux font que ça va très vite, il y a un accès à l'information qui est décuplé, une multitude de critiques. La Covid a pour moi aussi énormément accéléré ce moment, en tout cas pour ceux qui ne sont pas des professionnels, parce que subitement il y a l'opportunité de faire plein de choses chez soi. Je pense vraiment que ça a accéléré la connaissance du vin. Le départ de beaucoup de personnes des grandes métropoles ont fait qu'il y a aussi eu beaucoup d'installations dans des territoires un petit peu qui avaient été un peu oubliés. Alors, je parle des États-Unis, mais des États qui n'avaient pas forcément des réseaux de distribution bien ou des cavistes ou des restaurants, il n'y en avait qu'un. Subitement, il y a plein de gens qui sont partis des grandes métropoles et qui se sont installés. Donc en l'espace de 3 ans, aux États-Unis en tout cas, on a un maillage d'accès au vin qui n'a jamais été aussi important, sachant que, je vais le dire au micro, mais aux États-Unis, c'est très 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 compliqué d'acheter du vin d'un État à un autre. C'est pas du tout comme en France. C'est quasi impossible. Moi, je peux pas acheter nécessairement du vin si j'ai une bouteille que je veux voir à Chicago, l'acheter, c'est très compliqué si je suis à New York. Donc, c'est pas du tout un marché ouvert comme on peut le croire.
Ouais, ils ont un système de commercialisation qui est hérité de la prohibition et qui est très contrôlé avec chaque État qui a ses propres règles. C'est ce qu'on appelle le three-tier system avec les producteurs, les intermédiaires et les distributeurs et puis
les revendeurs
finaux. Et il y a des règles très compliquées très chaque État, c'est pas les mêmes. Et ça met des bâtons dans la roue. Effectivement, c'est le pays le plus libéral en termes économiques pour beaucoup de questions, mais sur l'alcool, on est très loin derrière la France, par exemple, sur la facilité du commerce.
Du vin, c'est tout. Oui, j'ai pas le droit de vendre du vin emporté, par exemple, dans mon restaurant. Souvent, il y a des gens qui viennent me dire : t'as jamais pensé à mettre un mur de bouteilles et faire de la vente à emporter ? Ça marche bien en France. Alors, si, mais en fait, on peut pas. C'est pour ça qu'il y a personne qui le fait. Par exemple, un propriétaire de cave n'a le droit qu'à une seule cave, qu'un seul magasin. Enfin, donc les chaînes, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas parce que c'est pas légal, autrement on l'aurait fait. Mais donc, tout ça pour finir, la clientèle a beaucoup changé en 3-4 ans, et un des gros, et ce qui va continuer à mon avis à faire vraiment développer le marché du vin aux US, et qui va continuer à faire en sorte que ce soit le marché numéro 1 en termes d'import, c'est que beaucoup de gens se sont installés dans plein d'États, et qu'il y a un réseau de distribution qui s'est mis en place, et que subitement, dans quasiment tous les États aujourd'hui, alors je parle vraiment des États centraux qui étaient compliqués, le Wyoming, l'Idaho, l'Ohio, pas forcément des cultures de vin, pas forcément des... aujourd'hui, on peut quasiment trouver des chouettes bouteilles dans tous les États, avec des gens passionnés partout. Et la Covid a beaucoup accéléré le mouvement d'éducation. Ça, c'est indéniable.
Alors, je voudrais qu'on change totalement de sujet. Et je voudrais qu'on parle de toi en tant que femme. Voilà. On n'a pas encore abordé ce sujet et je peux difficilement passer à côté. Enfin, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur au bon grain de l'ivresse. Donc ça fait 20 ans que tu es dans le milieu de la restauration et dans le milieu du vin. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé pour les femmes dans ces milieux-là? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de se faire une place, on va dire, prestigieuse, ou alors avec des responsabilités? Voilà, qu'est-ce qui a changé?
Alors moi, je peux parler que du côté sommellerie, et encore sommellerie à l'international.
Parce que ça va faire, qui est déjà beaucoup.
Ce qui fait beaucoup, oui. ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis. Donc, oui, les choses ont changé. Les choses ont changé dans le milieu du vin. Ça a changé aussi dans la société en général. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment totalement séparer le milieu viticole de la société en général.
Je ne pense pas non plus, effectivement.
Donc la place de la femme, elle s'est affirmée dans le milieu du vin parce qu'il y a aussi des avancées dans d'autres milieux et vice-versa. Et il y a eu des fortes personnalités, des femmes qui ont pris des postes à responsabilité dans plein de domaines qui ont permis petit à petit que les choses changent. Donc oui, alors c'est beaucoup plus facile d'être sommelière aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ça l'est plus facile qu'il y a 20 ans. D'avoir accès à l'éducation absolument, d'avoir une reconnaissance professionnelle absolument. Ça s'est beaucoup accéléré ces 5-10 dernières années parce que les problèmes qu'il y avait et qui sont complexes, donc j'ai pas forcément envie de faire des caricatures parce que ce sont des choses quand même à nuancer. Hein. Mais le fait qu'il y ait eu beaucoup de scandales et que des femmes aient osé parler publiquement, poursuivre en justice, dans plein de milieux, le MeToo Movement a été une vraie réalité aux États-Unis, ça a vraiment crevé des abcès énormes, a fait que beaucoup de choses se sont libérées, alors parfois avec des excès aussi, mais se sont beaucoup libérées et ont permis une accélération, en tout cas, du sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus OK d'être dans des situations de misogynie extrême. Ça, c'est évident. Et les nouvelles générations de femmes qui arrivent ont une force incroyable. Avant, je pense qu'elles avaient cette force incroyable, mais que seulement quelques personnes avaient vraiment eu la possibilité, le courage d'aller jusqu'au bout de leur conviction et de montrer la voie et d'être des pionnières. Alors qu'aujourd'hui, je suis ébahie par la force de caractère de nombre de jeunes femmes qui ne se laissent plus marcher sur les pieds, qui veulent s'assumer et qui font le job de manière incroyable. Alors après, les choses sont complexes et compliquées. Alors moi, je pense que je suis arrivée à un moment tournant, hein, en 2007-2008. C'était pas le début des années 2000, c'était pas la fin des années 90. Ça commençait à changer. Il y avait déjà des femmes qui avaient pris des postes à responsabilité, en tout cas en France. Dans la sommellerie ou dans les achats, qui s'étaient fait leur place. Il y avait une présence réelle de maîtres de chai aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier que ça. Et de plus en plus de vigneronnes, de plus en plus d'œnologues, de plus en plus d'acheteuses, de critiques de vin, qui commençaient à être là, à être en place. Et pas juste une, mais une, deux, trois, quatre. Et tout ça a fait que je suis arrivée à ce moment-là, dans un microcosme où il y avait des femmes qui avaient pu se faire un peu de la place au soleil, et c'était pas totalement irréel que je sois une femme dans ce milieu et que je puisse y aller. Il y avait aussi la clientèle qui a échangé avec plus de femmes qui osaient aussi s'intéresser au vin. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore très structurelles et qui font que ça reste encore compliqué et plus compliqué pour une femme. Parce que l'environnement n'est toujours pas aussi égalitaire qu'on ne le croit. Alors, c'est beaucoup moins de misogynie directe. C'est vrai que moi, on me l'a fait, ce coup dont... Enfin, je l'ai vraiment entendu de la bouche d'un vigneron au début de ma carrière, que non, si j'avais, enfin, il m'a demandé si j'avais mes règles. C'est très vrai, je l'ai eu. Une fois dans ma carrière. Voilà, je l'ai eu qu'une seule fois. C'était très particulier. C'était une personne d'un certain âge. Je pensais pas que ça m'arriverait. Ça m'est arrivé. Donc, ces caricatures-là, moi, je les ai eues une ou deux fois dans ma vie. Par contre, des choses beaucoup plus insinueuses et beaucoup plus fatigantes sur les commentaires. Vous êtes sûre, mademoiselle où il faut répéter 2-3 fois, où c'est pas immédiat lorsque c'est nous qui donnons un conseil ou une recommandation, où on passe derrière dans un commentaire de vin, parfois dans une cave, où c'est souvent un concours un peu d'ego, où il y a plein de petites choses comme ça et qui font que c'est toujours plus compliqué, il faut toujours plus se tenir, faut surtout pas être abusé d'alcool, l'ivresse n'est pas forcément recommandée et de suite vous avez une réputation un petit peu différente. C'est plein de petites choses comme ça qui continuent d'être là. Alors ça va de mieux en mieux, mais qui font quand même que la vie d'une femme, c'est pas aussi simple que celle d'un garçon ou d'un homme dans ce métier-là. Ouais.
L'alcool, l'ébriété, ça accentue les choses de manière négative. Est-ce que tu
bien penses sûr, mais évidemment, c'est on n'en parle pas assez de l'alcool dans nos métiers, hein, mais il y a la socialisation de l'alcool, il y a les excès de l'alcool, il y a beaucoup d'excès d'alcool dans nos métiers. Et ça entraîne des comportements inacceptables, ça entraîne des barrières qui se rompent, ça entraîne des gestes qui ne devraient pas avoir lieu, des paroles qui ne devraient pas avoir lieu, et il y a une certaine tolérance par rapport à des abus de consommation pour la convivialité, pour le geste, pour la camaraderie, la confrérie, tout ce que vous voulez. Au final, c'était pas par hasard si les Grecs avaient ritualisé la consommation d'alcool. Et effectivement, ça fait des choses déplacées. Effectivement, ça crée des situations qui peuvent devenir extrêmement problématiques et où le nom est plus entendu, où les gestes inacceptables se passent. Et ça, on n'en parle pas assez, je pense, dans nos métiers. Il y a un snobisme de l'ivresse un peu fashion. Voilà. Et ça, j'en suis tout à fait consciente. J'évolue dans un milieu où on a quand même accès à des bouteilles incroyables, des vins exceptionnels, des vins magiques. Il y a plein de choses qui se passent. Hein, et on va goûter un peu ici, un peu là. Et au final, mais tu comprends, c'était cette bouteille-là, c'était super. J'en ai bu un verre, mais tu comprends, il y avait ça juste après, donc j'en ai encore bu. Et ça peut aller vite. Et au final, ça reste, ça reste de l'alcool. Et il y a un snobisme de l'alcoolisme comme ça. Et je trouve que c'est très dangereux. Il faut en être conscient. Et surtout pour des personnes, on est souvent dans des ensembles de sociaux où on ne connaît pas forcément tout le monde, et ça peut déraper. Et ça dérape souvent, en fait, plus souvent qu'on ne le veut l'admettre. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir et boire. Je crois vraiment la vertu de la modération, et ça éviterait beaucoup de situations. Et encore quand on est une femme, encore plus. Hein, j'avais dit ça il y a quelques années. Au départ, j'avais un peu regretté, mais en fait, c'est très vrai. Hein, une femme ivre ou une femme qui est dans un état d'ébriété sera, je crois vraiment, on sera beaucoup plus rapidement traitée d'alcoolique ou de manière très, très négative.
Oui, le snobisme fashion, il est un peu plus chez les hommes que chez les femmes.
Alors qu'un homme, au contraire, c'est une qualité. Regarde, j'ai réussi à enquiller deux, j'y tiens bien l'alcool. Et vous savez quoi? Et ça, peut-être que c'est de la psychologie de comptoir, mais je l'ai quand même vu très souvent. La femme n'a pas, enfin, en tant que femme, c'est voilà, le rapport à l'alcool est souvent très mal vu quand une femme boit trop.
Il y a une pression sociale différente.
L'homme, au contraire, parfois, j'espère que c'est, enfin voilà, je vais pas tomber dans la caricature de base, mais il y a je bois en ce moment plus que jamais, mais je bois très peu.
Oui, j'allais te demander justement, comment tu gères toi ta consommation d'alcool, ou c'est quoi ton rapport à l'alcool?
J'ai envie de faire ce métier jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, j'ai envie de pouvoir goûter des vins, des spiritueux, des bières, être dans cette. C'est un monde tellement complexe qui me fascine tellement que j'ai vraiment envie de le faire jusqu'à la fin de ma vie et en bonne santé. Et aussi en bonne santé pour mes proches. Je crois qu'on oublie aussi souvent les proches. La famille proche, qui ne boit pas forcément, qui n'est pas forcément dans notre délire de vin. Et quand vous avez quelqu'un qui boit tous les soirs à la maison et vous n'avez pas forcément envie de boire, et qui, c'est pas très sain non plus. Et je pense que c'est très important de dire qu'on n'est pas tout seul. Après, on est dans des petits milieux, on a des potes et tout ça, mais voilà. Alors, comment moi, je vois ça je goûte beaucoup, je crache. J'ai pas de problème à cracher quelque chose. C'est une bouteille exceptionnelle, on en boit très très peu. Et j'ai essayé d'apprécier sur le très peu boire. D'être encore plus sur cette... essayer de capter au maximum, d'avoir l'essence le plus possible en éveil pour avoir une magie du vin quand je déguste. Après, quand je bois, ça m'arrive. En ce moment, je bois pas parce que je suis dans cette phase de préparation au concours en plus. L'alcool fatigue énormément. Hein, faut bien dire ce qu'il est. J'ai besoin de faire des bonnes nuits parce que j'ai des nuits courtes. Mais autrement, oui, ça m'arrive évidemment d'apprécier une jolie bouteille, mais je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Et dès que je sens que je commence à être un peu trop, on passe à l'eau, on prend du thé, on prend autre chose. Je déteste être ivre, mais je déteste ça. Je déteste ça. J'aime bien avoir ce côté un petit peu émoustillé, hein, mais c'est tout. Après, pour moi, c'est plus un trip. Ça me plaît pas du tout. Donc, j'aime bien me voir, mais c'est très modéré et j'hésite pas à cracher ou à boire très peu. Une fois encore, j'ai pas besoin de beaucoup dans mon verre pour.
Ouais, justement, on t'a vu à l'œuvre pendant des moments de préparation là, et je dois avouer quand même que je suis assez fasciné quand je te vois cracher par le peu de vin que tu as mis en bouche et malgré tout l'analyse que tu arrives à faire. C'est l'entraînement qui te permet de capter un vin comme ça en ayant une quantité finalement assez faible qui est passée dans ta bouche.
Alors oui, c'est marrant en plus parce que quand on s'était vu à Bordeaux le soir, je parlais avec un œnologue très très connu de Bordeaux, hein, qui lui parfois je lui ai demandé mais comment vous faites quand vous goûtez 300 échantillons dans la journée. Il me dit mais en fait je prends quasiment rien et j'y arrive en fait. Et en fait, c'est un entraînement. Alors après, c'est vrai qu'on a beaucoup de... En fait, faut bien distinguer deux choses. Hein. Dans ces cas où ce qu'on fait, ce qu'on a fait là-bas, on est sur des choses très particulières que je recherche en dégustation, certains types de marqueurs. On était en plus sur des vins assez proches. Il n'y avait pas des grosses évolutions sur les alcools. Enfin, donc j'allais chercher des choses très, très particulières.
En l'occurrence, je pensais plus à la première journée qu'on a passée avec toi. Où ouais, tu as fait ouais. Beaucoup d'épreuves blanches. Notamment la toute première épreuve qui m'a marqué. Tu avais 8 vins identifier en 6 minutes.
Ah oui, c'est vrai.
On te demandait d'identifier les cépages et les marqueurs associés à ces cépages.
Oui.
Et j'ai trouvé ça... Bon, déjà, le temps imparti, il y avait moins d'une minute par vin, ça paraît assez dingue. Et quand je te voyais cracher, je me disais... Au début, je me suis dit, est-ce qu'elle avale en fait une partie du vin ? Et je ne pouvais pas y croire. Donc je me suis dit, elle prend vraiment des doses... microscopique, c'est incroyable.
Alors oui, il vaut mieux pas trop avaler, non. alors après, on est vraiment dans des choses très très différentes par rapport à vraiment la vraie dégustation d'un vin. Par exemple, parfois je fais des chroniques ou j'écris sur un vin. Là, je vais vraiment mettre le vin en bouche, je vais vraiment le grumer. J'ai passé beaucoup de temps avec ce vin-là.
Tu vas saliver.
Je vais saliver, je vais regarder ma salivation, je vais aller sur les arrières de bouche pour vraiment sentir la chose. Donc là, c'est un exercice très différent que je fais pour cette reconnaissance extrêmement rapide, où en fait, il faut que je trouve des marqueurs. Et les marqueurs, parfois c'est un marqueur aromatique, parfois je sais ce que le vin est déjà au nez, parce que parfois il y a des choses tellement évidentes, alors il y a peu de vin comme ça, mais il y a quand même des boum, et je vais juste mettre un tout petit peu en bouche pour compléter. Ou alors, quand c'est bien vraiment difficile, c'est là que je vais prendre plus de vin en bouche, parce que les marqueurs ne seront pas aussi évidents. Mais toute la chose, c'est effectivement d'avoir des repères qui vont très rapidement s'activer, des réactions que je vais avoir immédiatement. Je vais dire, tiens, bam, bam, bam. Et surtout, ça reste des dégustations à l'aveugle qui sont quand même relativement larges par rapport à d'autres examens que j'ai pu passer, où on a peut-être une cinquantaine de vins qui sont listés. On sait que ce sera parmi ces 50 types de vins. Là, dans le monde, dans le meilleur semi du monde, le champ des possibles est bien plus ouvert. Mais en même temps, on sait qu'on aura quand même des choses qui sont identitaires avec des cépages où il n'y a pas juste 250 bouteilles de produits d'un cépage rarissime fait. Et donc, il faut les marqueurs. Donc, en fait, si j'ai ça, si je suis au nez, ok, je suis déjà quelque part. Je le mets éventuellement en bouche et ok, l'acidité, ça confirme, c'est sec, il n'y a pas de bois. Ok, j'ai quand même une bonne idée. Et après, quand je ne trouve vraiment pas ou quand ça ne parle pas, c'est là que je vais prendre beaucoup plus de temps avec le vin en bouche et que je vais aller chercher autre chose qui va essayer de me raccrocher à ça. Mais on est dans un exercice de reconnaissance. Donc, c'est vraiment très particulier. Je ne suis pas en train de faire une analyse profonde du vin. Ce n'est pas du tout le but de l'exercice.
Cette méthode-là, c'est toi qui l'as développée sur le tas, on va dire, par nécessité pour répondre à ce qu'on te demandait en concours, ou est-ce que c'est en te préparant en concours avec d'autres personnes qu'on te l'a enseigné? Est-ce que c'est quelque chose que beaucoup de professionnels du vin, ou en tout cas dans les concours, ont fait?
Après, non, je crois que c'est une façon de goûter qu'on développe personnellement et individuellement en fonction de ses capacités. Qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, je connais des gens qui sont incroyables au nez. Moi, j'ai un peu plus de mal avec le nez. Donc, on a des grilles de notation qui nous permettent de savoir un petit peu ce qui nous est demandé par rapport à la reconnaissance des vins. Et par rapport à ça, on va développer, je pense, personnellement, un travail de dégustation. Mais malheureusement, on n'est pas très bien formé, en fait. Y a des diplômes qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la formation. Notamment, je pense à celui que fait Axel Marchal à Bordeaux, ou même le travail que fait Julien et Camus avec le DU de géosensoriel, où là, on prend vraiment du temps pour comprendre comment notre palais travaille, et notre nez, et avec des préparations, je ne sais pas, d'eau sucrée à différents grammages, différentes préparations avec différents acides, à différents grammages de tanins, différents grammages et tout ça. Ça, il y a des préparations qui le font spécifiquement. Moi, on ne me l'a jamais fait. Moi, je m'en suis fait pour moi, pour voir un peu mes seuils de perception. Et me dire, tiens, là-dessus, je suis plutôt comme ça, là-dessus, je suis plutôt comme ça. Sachant que dans le vin, après, c'est très compliqué parce que tout se mélange. Mais donc, ma technique en ce moment que je pratique, c'est plutôt moi par rapport à mes capacités physiques, ce qu'on me demande, et le type de vin que j'ai à goûter. Mais je pense qu'on a encore un travail vraiment important à faire, qui n'est pas forcément enseigné encore, malheureusement. En tout cas, aux États-Unis, je le sais, dans le diplôme, dans les diplômes que je passe de MS, enfin que j'ai passé, tout ça, dans les cours qu'on dit, on ne fait pas ça. Et c'est très problématique, à mon avis. J'aimerais vraiment que ça parte du cursus pour apprendre l'outil de travail qu'on a et qui est différent chez tout le monde. Par contre, il y a déjà des diplômes, notamment en France, qui ont déjà poussé ce curseur-là, et je trouve ça très, très bien.
Alors, on a un petit peu dévié du sujet duquel j'étais parti sur la place des femmes. Et je voudrais qu'on revienne un tout petit peu vers ça, puisqu'on avait commencé à parler des excès, des abus envers les femmes. La restauration, c'est un milieu qui, depuis quelques années, est beaucoup critiqué pour certains excès, certains abus, pas seulement sur les femmes, mais sur beaucoup de monde, notamment en cuisine. Sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les violences qui peuvent exister. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à tout ça pendant ta carrière de sommelière?
Non, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai travaillé que dans des restaurants qui étaient déjà... Alors, en France, j'ai vraiment travaillé que dans un restaurant... qui était celui de M. Jacques Torel en Bretagne, qui était un chef un peu à la vieille école, mais qui était quelqu'un extrêmement juste, qui était pas facile, mais c'était pas du tout dans ce côté harcèlement qu'on voit au restaurant. C'était vraiment juste, il fallait être précis, strict et travailler dur. Et c'était quelqu'un qui travaillait avec sa femme, il avait déjà une chef sommelière. Il avait une ouverture sur le monde, il avait travaillé à l'étranger. Enfin, c'est voilà. Donc, j'ai une expérience très structurante.
Rigoureuse.
Rigoureuse, mais vraiment aussi au fond d'une gentillesse incroyable. Et on est toujours très amis. Et après, j'ai travaillé quasi immédiatement en Belgique, puis aux États-Unis. Et là, on était dans des mondes un petit peu différents, avec en plus des équipes cosmopolites, et qui étaient portées par des projets très spécifiques, où vraiment le recrutement avait été fait pour éviter ce genre de choses. Et effectivement, il y a eu des éléments, à un moment donné, notamment à New York, on a eu un sous-chef qui était dans l'intensité, dans l'agression verbale, dès qu'il a eu une promotion, il y a eu ça. Cette personne n'est pas restée au restaurant. Donc on a eu immédiatement la possibilité d'avoir un système de ressources humaines qui a fait qu'on n'avait pas ça. Donc moi, je l'ai vécu indirectement avec un autre chef qui aussi n'est pas resté très longtemps. Mais je l'ai vu, effectivement, et c'est surtout avec une ancienne génération qui a été formée comme ça. Et on peut pas nier qu'il y a eu des excès. Et il y en a toujours, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y en a toujours, mais on a été effectivement dans un corps de métier qui a autorisé, permis, alors pour des prétextes parfois, je me dis le coup de feu d'un service. Oui, effectivement, le coup de feu d'un service, mais on n'est pas sous la pression d'un chirurgien cardiaque qui va faire une opération à corps ouvert. On n'est pas un pilote d'avion qui a en gestion un équipage et 350 personnes, et s'il se plante...
C'est grave.
C'est grave. On est dans un restaurant. On donne à manger aux gens. Donc après, c'est vrai qu'il y a un niveau d'intensité qui est réel, mais ça ne justifie absolument pas les abus verbaux, les abus physiques. Et tout ça, pourquoi ? Parce que c'est... Pendant longtemps, le travail qui était possible dans certains restaurants n'était vraiment pas assez rémunéré. Le travail qui implique ce qu'il y a dans l'assiette ne permettait pas forcément de payer correctement, ou alors l'argent allait ailleurs, mais ne permettait pas de payer correctement les personnes qui produisaient, alors que le travail imposé était quand même très, très important. Donc oui, Et aujourd'hui, de toute façon, la crise qu'on a dans la restauration, elle est directement liée à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à embaucher ? Qui veut travailler Alors, on a déjà des horaires décalés. Qui veut travailler dans un milieu où on a encore l'image qu'effectivement, c'est dur, c'est rigide, c'est militaire, c'est brigadé, il faut faire ses preuves, on est encore sur des bizutages. Enfin, on était encore sur des bizutages peut-être il y a quelques années qui étaient stupides. Des émissions télé ont encouragé ça aussi d'une certaine manière, parce que des shows à l'américaine ou à l'anglaise plus exactement, qui montrent les chefs qui gueulent et qui... Voilà, ça fait de l'audience.
Je pense qu'on voit de qui tu veux parler.
Mais honnêtement, les choses sont en train de radicalement changer pour une partie de la restauration, sans aucun doute.
Mais tu vois, je vais prendre un exemple concret qui va amener ma question. Mais il y a quelques jours, il y a le Noma qui a annoncé qu'ils allaient fermer en 2024 en expliquant que... leur modèle était pas viable ou pas pérenne, on va dire. Ils existent depuis 2004, si je ne me trompe pas, donc ça fera 20 ans en 2024. Beaucoup de médias ont repris l'info sous l'angle de « c'est dommage, c'est la fermeture du meilleur restaurant du monde, c'est quand même une perte, blablabla voilà. ». Malgré tout, il y a eu des enquêtes il y a quelques années, des infos qui sont sorties dans quelques médias qui ont été peu reprises ces derniers temps, sur le fait que, notamment au Noma, ils ne payent leurs stagiaires que depuis l'automne 2021. Donc, ils ont quand même vécu 17 ans en...
Oui, ce n'est pas des seuls. Hein.
Non, non, mais je prends un exemple concret. Ce n'est pas pour les incriminer complètement, mais... Alors, je trouve qu'il y a une certaine ironie déjà à dire qu'un modèle n'est pas soutenable juste au moment où on se met à payer tout le monde.
Qu'une autre enquête est en cours et que ça allait sortir dans un journal international.
Voilà, par exemple. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait toujours un peu, même s'il y a des critiques, il y a toujours un peu une chape de plomb sur ces sujets de la part des journalistes, des critiques, et qu'on a un peu du mal à dégommer certaines idoles. Pourquoi est-ce que c'est si difficile l'économie de la restauration ?
Ah bah c'est une très bonne question. Rentrons dans le vif du sujet. On paye. À l'heure actuelle, alors moi je vais parler des coûts opérationnels d'un restaurant. Très concrètement, pour donner. Alors les États-Unis c'est différent de la France. Mais pour avoir un modèle économique viable, je pense, et avec des produits de qualité et un travail de qualité et payer correctement les gens, il faudrait sans doute qu'on double les prix dans l'assiette. C'est tout simple. La qualité. Un travail de qualité avec un produit de qualité dans une assiette aujourd'hui, Alors, je vais parler des États-Unis parce que je connais moins la réalité économique réelle de l'opérationnel français avec les charges sociales et tout ça. Mais vraiment, nous, à New York, et là avec les équipes, si on voulait vraiment leur donner la possibilité de salaire équivalent dans d'autres industries, à compétences, on va dire, et expérience égale, il faudrait qu'on double le prix des plats dans l'assiette pour leur donner une assurance santé et tout ça. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que le budget alimentaire d'un restaurant, enfin, ce qu'on on ne paye pas assez. Mais par contre, moi, je sais très bien que la clientèle n'est pas prête à payer ça.
Tu penses, vraiment ?
Oh, j'en suis sûre. J'en suis absolument sûre. Ils sont pas prêts. C'est pas possible. C'est psychologiquement, c'est pas possible. Le travail qui va dans la réalisation d'un repas, ça n'ira pas dans l'assiette. Ou alors, ça va aller dans les choses, voilà, les trois étoiles qu'on voit. C'est pour ça qu'on a les variables d'ajustement sur le vin. Entre guillemets, je pense que les gens sont plus prêts à payer ça sur une bouteille de vin qu'ils ne sont prêts à payer ça sur une pièce de viande ou sur une pièce de poisson, sur un plat végétarien bien travaillé, où toutes les personnes de la chaîne sont bien rémunérées, qu'on soit bien d'accord. On parle du producteur, voilà, à une distribution qui est aussi saine, où les marges ne sont pas tarées sur la distribution, parce que parfois il y a des marges d'intermédiaires qui sont quand même bien costauds, à la personne qui va faire la plonge, qui doit être rémunérée de la meilleure des manières, la personne qui va aussi faire en sorte que le restaurant, voilà, le serveur, le chef, enfin, à toutes les étapes de la chaîne. Et une fois encore, j'ai nuancé ça en disant que je parle, moi, de l'industrie américaine, que je connais, enfin, en tout cas, new-yorkaise, que je connais maintenant assez bien. Non, les gens ne sont pas prêts à payer ça. Ou alors, il faut que ce soit dans un cadre incroyablement luxueux, enfin, qu'il y ait tout le décorum qui va avec. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien et de précis, et que vous augmentez votre prix de viande même de 5, 6, 7 dollars, les gens ils vont vous regarder, mais c'est trop cher. Where is my value?
C'est quoi le ticket moyen ou le budget en gros qu'il faut prévoir quand on vient dans ton restaurant
Écoute, l'ordre de grandeur. Nous, on a un ticket moyen d'à peu près 115 dollars. Donc ce qui est en euros, 100 euros. Voilà. Ce qui est pour New York et pour Manhattan et pour là où je suis.
Boisson comprise ?
Boisson comprise, oui. Ouais. Boisson comprise, café compris. Alors, pas taxes comprises. Donc, il faut rajouter les taxes, qui ne sont pas très élevées. C'est à peu près 9%. Et après, il faut rajouter le pourboire, qui est, lui, à la discrétion de la clientèle, mais qui, normalement, est de 18 à 20%. Donc, il faut rajouter 28% sur ça. Pour New York, pour Manhattan, pour le quartier où je suis, on est plutôt dans la moyenne, on va dire.
Ouais. Ni haute ni basse, quoi.
Ouais, on est même plutôt, entre guillemets, pour les produits qu'on propose, pour la cuisine qu'on propose, qui est une cuisine de marché, qui est une cuisine de produits faits, qui est une cuisine où tout est fait au restaurant, on est même plutôt raisonnable. On est même plutôt sur le bas. Donc, on a repensé notre modèle économique du restaurant pour... On a tout repensé au restaurant, en fait, pour pouvoir augmenter les salaires de nos cuisiniers, pour augmenter les salaires, en fait, de tout le monde, pour faire en sorte de leur payer une partie de leur assurance santé, ce qui est un coût aux États-Unis que les gens, les Français, ne peuvent absolument pas imaginer. Hein. Et pourtant, avec le coût des matières premières qui monte en ce moment et l'inflation, il faudrait qu'on augmente nos prix. Tout simplement pour que ça marche. On parle pas de, et en plus, on n'est pas du tout dans une idée de faire des millions de dollars de profit dans notre restaurant. Il faut que ce soit rentable, il faut que ça marche. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un modèle économique qui soit sain pour tout le monde. Et on paye pas assez, on paye pas assez. Enfin, les plats sont pas assez chers.
Aujourd'hui, ton modèle, il est rentable ?
Oui.
Ouais.
Mais il est rentable parce qu'on a la chance d'être dans un restaurant que nous connaissions avant, qui avait un autre modèle économique et une autre façon d'opérer. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir repenser l'intégralité du système pour faire en sorte de se dire comment est-ce qu'on peut être rentable tout en offrant 2 jours de congé à nos employés, tout en augmentant les salaires de tous les employés qui étaient salariés, tout en faisant ça, plus ça, plus offrir une semaine de vacances, enfin, des congés payés, tout ça, ce qui est aux États-Unis, enfin, c'est dans une petite structure de restaurant, mais ça se fait pas. Enfin, les 5 semaines de congés payés aux États-Unis, c'est pas du tout le même système que la France. On n'est pas du tout dans le... et donc oui, on a réussi à faire ça tout en voulant faire en sorte que on soit axé. Alors, on reste un restaurant pour une certaine gamme de clientèle, ça c'est indéniable. Mais si on veut se faire plaisir avec un joli plat, une jolie bouteille et tout, on peut venir et voilà, une entrée, on peut venir au restaurant et quand même manger pour moins de 80 $. Alors ça reste cher, hein. Et là je parle d'une bouteille, je parle pas juste d'un verre de vin. Un verre de vin, ce serait beaucoup moins cher. Mais c'est le prix d'opérer un restaurant à New York et à Manhattan. Et souvent, même quand les gens me disent parfois, ouais, mais t'es trop cher et tout, je dis, mais attendez, vous venez dans Manhattan, dans Tribeca, boire une bouteille de vin dans une jolie verrerie avec des gens qui connaissent leur métier, qui ont été formés, une cuisine dans l'assiette qui est vraiment pure et de qualité. Et ce sont généralement des gens qui ont beaucoup d'argent qui se plaignent. Je dis, mais tournez, ils venaient me raconter notamment, et ça m'a fait rigoler, ils venaient me raconter leur séjour aux Caraïbes. Je dis, mais quand vous êtes dans les Caraïbes, vous la payez combien la bouteille? Ouais, mais c'est pas pareil, t'es sur une île, tu comprends la logistique, le machin, le truc, faut payer. Mais... Je dis, est-ce que si moi je faisais la même chose dans le nord d'Harlem, mon même restaurant qui me coûterait sans doute moins cher parce que les loyers seraient moins chers et tout ça, est-ce que vous viendrez me voir pour boire la bouteille moins chère? Je dis, bah non. Parce que c'est plus pratique quand on est dans Tribeca. Je dis, écoutez, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Bon, il y a des voilà. Et ça, c'est des choses que notre clientèle américaine parfois oublie un petit peu. Mais voilà, pour te dire en soi, un des problèmes de la restauration, c'est qu'effectivement, les abus, le fait qu'on faisait des horaires pas possibles, qu'on était sur des intensités de service parce qu'il fallait vraiment faire rentrer des couverts. Les abus structurels du métier sont aussi liés au fait qu'il y a, je pense, une question par rapport à comment bien manger et mieux manger et tout ça, c'est lié. Ce qui fait qu'on a des comportements qui ne sont pas acceptables parce qu'on pousse les organismes et les gens aux extrêmes, que ça entraîne des moments où il faut absolument décompresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Il y a même des problèmes de drogue, hein, nombreux, dont on parle jamais. Ce qui fait qu'on se lâche, ce qui fait qu'on rentre dans cette espèce de spirale où pour tenir, il faut qu'on boive. Enfin, et on rentre dans ce truc qui est vachement malsain. Et on a des comportements abusifs avec des personnes, c'est encore pire avec les nanas. Enfin, ça l'a été pour montrer qu'on est le plus fort, le mieux, il faut qu'on soit le plus costaud, le plus... Enfin, et on rentre dans ce cercle qui est absolument pas sain. Mais il faut bien dire, que c'est pas le seul modèle de restauration et qu'on peut vraiment... avoir un restaurant, avoir une vie équilibrée, saine et tout, et que c'est tout à fait possible, et que qu'on peut faire ça comme choix de vie, choix de carrière.
Est-ce que tu penses que là, ce modèle 5 que tu décris, tu l'as atteint dans ton resto, est-ce que tu penses que ça peut servir d'exemple, et est-ce que t'aimerais que ça serve d'exemple?
Bah, c'était une des vocations immédiates avec mon general manager, effectivement, de... alors, il y a plein de restaurants comme le nôtre, hein, qui sont très 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 sains. On n'est pas les seuls, hein. Pas du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on a vraiment voulu peut-être parler un petit peu plus immédiatement. Alors, pas forcément dans la presse, mais en tout cas dans la façon dont on a recruté nos employés, expliquer un petit peu par où on voulait aller. Et effectivement, quand d'autres personnes viennent nous demander comment on a réouvert et qu'est-ce qu'on a fait de différent, ben on explique ce qu'on a fait de différent pour que ça marche. Absolument. Alors, j'aimerais vraiment qu'on aille encore plus loin. Pour l'instant, on est encore dans la phase de stabilisation parce que ça fait que 6 mois qu'on est ouvert. Il faut vraiment qu'on comprenne exactement où est-ce qu'on va, comment on va dans une situation économique internationale qui est encore un petit peu compliquée. Mais oui, absolument. Mais j'ai plein d'exemples de restaurants comme ça qui marchent. Moins aux États-Unis, plus au Canada, ou notamment au Québec, où je pense qu'ils ont été un peu plus en avance que nous, et c'est un système social un petit peu différent. Et il y en a en France aussi, hein, qui sont très très bien et qui ont des équilibres réels, où le modèle économique marche, il y a des jours de congé, on rentre pas le soir à 3 h du matin, défoncé après des services extrêmement compliqués. Donc non, il y a des modèles très sains.
Tu dis que tu voudrais aller plus loin sur ces questions-là, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place
Plus de formation, plus de congés payés, c'est la question du système de santé quand même qui est la grosse question.
c'est compliqué, hein, tout ce qui est assurance santé. Mais bah, il faut que, nous, on ait financièrement, pour une petite, on est une petite structure, hein, nous, on est 17 employés, donc c'est pas beaucoup, c'est une petite structure, mais ça se compte en, je crois que c'est de mémoire, hein, mais on était proche de la centaine de milliers de dollars par an, pour si on voulait tout payer. C'est énorme, c'est des sommes monstrueuses. Et ça va, là on sait déjà que ça va augmenter de 17% l'année prochaine.
Ouais, c'est considérable.
C'est considérable. Enfin, c'est pas des petites sommes, quoi. Et donc ça fait partie des choses. Les grands groupes peuvent le faire. Ils ont aussi d'autres choses, des plans retraite, des cotisations qui permettent aux employés, bah, justement, de mettre de l'argent de côté, d'être valorisés par des renforts de la société dans laquelle ils travaillent. Et ça, c'est des avantages de gros groupes qui sont. Et aux États-Unis, il y a des grands groupes très bien qui font ça et qui offrent à leurs employés tous ces avantages qui aujourd'hui sont vraiment des. Alors, au-delà. Alors, je pense que les employés aujourd'hui veulent vraiment trouver du sens dans leur métier. Ça, c'est indéniable. Des qualités de vie, travail aussi de qualité. Mais tous ces avantages sociaux comptent aussi beaucoup aujourd'hui dans la prise de décision de là où les personnes vont aller travailler. Et en France, ce sont quasi des acquis pour tout le monde. On n'y pense même pas, en fait. Mais c'est très, très rare aux États-Unis, dans le restaurant, aujourd'hui, qu'on puisse offrir ça.
Il ne te reste plus qu'à ouvrir Chambers dans 150 villes différentes aux États-Unis et de créer un grand groupe. Et puis voilà.
Oui. Ouais, bah c'est peut-être, hein, mais c'est pas forcément le but. Mais j'ai vu ça avec des amis qui ont ouvert une chaîne de bar à salade qui a commencé par un petit. C'est les enfants d'une amie très proche à moi, qui est devenu un succès incroyable dans tous les États-Unis. C'est des bars à salade de qualité. Et effectivement, quand on voit ce qu'ils proposent à leurs employés, et bah c'est chapeau, bravo.
Ça fait rêver, ouais.
Ça fait rêver parce que c'est peut-être des gens qui sont juste derrière le comptoir à mettre la salade, mais il y a des avantages qui leur permettent, voilà, de, même au niveau des congés maternité, des gardes d'enfants, enfin plein de choses comme ça. Et on reparlait des femmes, hein, des choses structurelles, réelles. Alors au-delà, effectivement, de la misogynie qui est toujours présente, plus ou moins larvée, qui est toujours présente, hein, le fait qu'indirectement, il faut quand même toujours sans doute taper deux fois du poing sur la table et parler un peu plus fort pour se faire entendre à table de négociation égale, mais tous les problèmes structurels. Moi, j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui pour une seule raison aussi, c'est parce que j'ai pas d'enfants. Je pense que si j'étais une mère de famille aujourd'hui, je serais sans doute pas là à être en compétition pour le concours du meilleur sommet du monde. Ce aurait été beaucoup plus compliqué et j'aurais sans doute des postes bien différents. Mais ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui, notamment dans la sommellerie, on est encore peu à. On a ce déficit entre les promotions. On voit de plus en plus de jeunes femmes, même des promotions avec des majorités de jeunes femmes. C'est incroyable, c'est fantastique. Mais au bout de. Voilà, quand on voit au bout de 5-10 ans.
Ouais, il faut voir sur le long terme, en fait.
Sur le long terme. Et ben on est beaucoup moins encore à être en salle ou à avoir des postes à responsabilité dans des parce que souvent il y a des questions de structure familiale. Et ça qu'on le veuille ou non, c'est on est déjà dans les métiers une fois encore décalés, on travaille le soir, on travaille le week-end, on travaille pendant les vacances. Alors parfois on peut travailler dans la journée, hein, mais donc c'est des choix à faire par rapport à tout ça et c'est des choix familiaux. Et je crois que c'est plus facile aujourd'hui d'être peut-être père de famille et de continuer une carrière dans ce métier-là que voilà, après c'est des choix sociétaux beaucoup plus larges et c'est pas forcément l'endroit où ouvrir le débat, mais je le sais pertinemment que c'est une des raisons pour laquelle et c'est un choix personnel assumé mais qui me permet de faire des choses aussi où j'ai moins de mérite entre guillemets parce que j'ai pas, c'est un choix personnel qui m'a mené vers ça. Et oui. Non, c'est un choix personnel et qui me permet aujourd'hui de faire des choses. Et oui, peut-être je suis une la seule nana, mais parce que aussi j'ai fait un choix dans ma vie personnelle.
Avant que je te pose ma dernière question traditionnelle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu voudrais me lancer et que je te pose encore 25 questions?
Non, mais je suis très reconnaissante. J'espère que j'étais assez claire.
J'ai une chance exceptionnelle de pouvoir te parler et d'avoir passé un peu de temps avec vous. Ce que j'aime avec votre travail, c'est que vous essayez d'apporter de la nuance dans beaucoup de choses qui, plus que jamais, sont mises de manière manichéenne, avec des extrêmes opposés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire avancer, et on les fera avancer, je pense, en apportant des conversations nuancées, des échanges où on se rend compte qu'en fait rien n'est blanc et noir, mais tout est gris. Et on fait toujours des compromis, et ce sera le moins mauvais compromis. Mais on est à ce moment-là aujourd'hui où on peut dialoguer et on peut mettre ça sur la table. Et je crois que. J'espère que ceux qui vont nous écouter vont se rendre compte qu'ils ont une force interne incroyable. Un pouvoir en eux fort, qui peuvent être des forces de changement nécessaires, mais qu'on peut le faire de manière, une fois encore, respectueuse, joyeuse et positive. Voilà. Je suis une rêveuse, mais plus ça va, plus je rêve.
Donc, non, mais j'adhère. J'espère, oui, qu'on peut contribuer à ce genre de choses. Ça me rendrait aussi très heureux. Et ben, dernière question traditionnelle. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais aujourd'hui ?
Bah oui, je suis heureuse dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Ouais, je suis très heureuse. J'ai une chance incroyable. Je suis entourée de personnes exceptionnelles. J'apprends tous les jours. Et je suis très satisfaite. Enfin, j'arrive le soir. J'ai beaucoup changé par rapport à ça, où j'étais toujours, mais j'ai pas fait assez, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais je crois que c'est quand on vieillit. Hein, on apprend à apprécier tout le petit plus de chaque instant de la vie. Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire. Il y a une vraie urgence sur plein de sujets. Il y a une nécessité d'action sur plein de sujets. Je ne sais pas si moi je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que je ne contribue pas assez à plein de choses et qu'il faudrait passer à une vitesse supérieure pour que les choses changent. Mais je sais aussi que si je ne suis pas au moins heureuse tous les jours du petit plus que je fais, je ne pourrai jamais avoir la force de trouver les solutions pour vraiment continuer à pousser ce qui se passe. Donc oui, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a une certaine sérénité, mais c'est aussi juste parce que j'ai besoin de toute l'énergie pour continuer à pousser, parce qu'il y a, malgré tout une sensation d'urgence à faire changer nos modes d'être au monde. Mais bon, si je ne montre pas l'exemple non plus que c'est possible, ce n'est pas en criant et en exhortant que c'est forcément aussi inspirant, quoi. Alors comment est-ce qu'on peut inspirer ? Je pense que moi, j'étais inspirée par vraiment des révolutionnaires et des gens qui ont crié, poussé. Mais les gens qui m'ont le plus inspirée, c'est ceux qui ont trouvé des façons d'être. Et qui m'ont fait voir que c'était possible. Alors j'essaye de montrer qu'on peut faire le métier de sommelier de manière un petit peu différente. Qu'on peut y avoir vraiment une sérénité, qu'on est vraiment dans un métier effectivement sans doute de luxe pour beaucoup de gens, parce qu'on voilà, on est dans des restaurants généralement onéreux, on travaille avec des bouteilles chères pour la plupart du commun des mortels, mais c'est pas pour autant qu'on est dans cet univers très privilégié. Mais je crois qu'on peut être dans cet univers très privilégié et malgré tout à faire en sorte que demain on crée un monde, on laisse un monde qui soit meilleur pour tous. Et je pense qu'on peut vraiment le faire avec le vin et avec la sommellerie. Voilà.
Merci infiniment, Pascaline. Merci beaucoup.
Merci.
Et bien voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette série en compagnie de Pascaline Lepelletier. C'est un chapitre que nous refermons avec une pointe d'émotion, en mesurant l'immense chance que nous avons eue de passer ces moments avec elle et de pouvoir les partager avec vous. J'espère que cette série vous a plu et qu'elle a ouvert des portes dans vos esprits et vos cœurs.
Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Lappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Masilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !